Merci de choisir Europe 1, il est 16h.
16h-17h, Carl Zéro sur Europe 1.
Oh, mais c'est pas vrai.
Ça fait quand même une surprise, non ?
Bonjour et bon début de milieu de fin d'après-midi. Les jours rallongent, il y a du soleil pour tout le monde. Et pour que votre bonheur soit maximal, voici en stéréo et en direct différé des studios d'Europe numéro 1, l'heure venue de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, deux tontons flingueurs qui en ont grave sous le capot, qui vont s'affronter dans un quiz ébouriffant qui, si la vocation à faire rire, peut aussi vous faire réfléchir.
Mes chers compatriotes, mes bien chers amis, aujourd'hui, le niveau culturel de cette émission est si énorme que du coup elle est sponsorisée par le ministère de l'Éducation nationale qui m'a personnellement fait parvenir un chèque de 84,50 €.
Pas mal.
Formidable.
Non, c'est peu, me direz-vous, pour accomplir le tour de force de réunir deux des derniers intellectuels français vivants. Mais c'est beaucoup pour Jean-Michel Blanquer qui a tant de bouche de professeur épuisé au quotidien par les quolibets de leur racaille d'élèves à nourrir. Bref, une ovation pour le philosophe tout-terrain Jean ton alliage, Michel Onfray, ouais, et des vivages chaleureux pour le plus chiracien des écrivains, Denis Tillinac, ouais, le meilleur d'entre nous. Messieurs, chers tontons, ce quiz citoyen a pour but de réduire la fracture sociale dont nous souffrons un peu plus chaque jour. Celle-là même que ton grand ami, Jaco, que je citais à l'instant, décela en 1995, Denis. Avant de l'oublier pour toujours, on ne sait pas pourquoi. Pour ce faire, oui, un mot.
Le constat était bon. La fracture s'est approfondie. Elle tourne à la franche lutte des classes.
Oui, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Alors, pour ce faire, pour réduire cette fracture sociale, l'un de vous va représenter la France d'en haut et l'autre la France d'en bas. L'élite contre les gilets jaunes, en quelque sorte. Anissa, faites votre devoir de citoyenne.
C'est Michel Onfray qui va tirer au sort.
Ah, la main de Michel Onfray est dans l'urne. Danissa, si j'ose dire.
Ah, quel bonheur, France d'en bas.
La France d'en bas. Ah, je vois que monsieur Tillinac est déçu. Alors, la France d'en haut, Denis Tillinac, tu remporteras, si tu gagnes ce quiz, une nomination au Conseil constitutionnel en lieu et place d'Alain Juppé, qui finalement, comme toujours, y renonce, comprenant qu'il n'a pas le niveau. Tu te fendras la pipe entre hommes blancs de plus de 78 ans, à toi la rémunération mensuelle de 16 000 euros et la joie d'être au-dessus des lois, mais pas quand même au-dessus de Benalla, faut pas déconner non plus. Et pour toi, Michel Onfray, la France d'en bas, eh bien ce sera une nomination également, mais au conseil de discipline du collège Foch à L'Aigle, le collège où a grandi Alexandre Benalla. Tu seras payé une misère pour éduquer de malheureux illettrés qui font quatre têtes de plus que toi, et pourtant tu es grand, qui disent wesh et qui écoutent Joule pendant les cours. Tu sombreras rapidement dans une dépression sans fond qui te conduira en arrêt maladie pour au moins 5 ans.
Alors avant que ce match ne commence entre Denis Tillinac et Michel Onfray, je vous rappelle que Michel Onfray est venu avec sous le bras son dernier livre, Sagesse.
Ah oui, j'ai eu peur.
Savoir vivre au pied d'un volcan. Il est sorti le 9 janvier dernier aux éditions Albin Michel. C'est son 100e ouvrage, le 3e volet de sa brève encyclopédie du monde après Cosmos et Décadence. Et puis, très bonne nouvelle quand même, Michel Onfray a le privilège de faire son entrée dans la collection des Cahiers de Lerne. C'est une revue qui, depuis plus de 50 ans, met en avant les figures capitales de la littérature et de la pensée, s'il vous plaît.
Ça n'est pas rien.
Denis Tillinac est venu aussi avec son dernier livre. Je vous rappelle qu'il est écrivain, essayiste, ancien éditeur, chroniqueur, éditorialiste à Valeurs Actuelles, et son dernier livre, c'est Mai 68, l'arnaque du siècle, aux éditions Albin Michel.
Et nous commençons, ma chère Anissa, par leur bio fake news. Et on commence donc, je crois, par tonton Michel.
Oui, c'est ça. Ganesh va dresser vos bios respectives. Alors, excusez-le par avance parce qu'il n'est que stagiaire. C'est à vous de remettre tout cela en bon ordre. Il y aura certainement des erreurs.
Hein. Et il est stagiaire à BFM TV. Et en plus, il n'a rien à foutre à Europe 1. Jingle.
De 10 à 14 ans...
C'est faux.
Non, tu commentes après.
Ah bon, d'accord.
Non, parce que sinon on n'est pas sorti.
Bah oui, c'est clair.
C'est un tissu de conneries, je te préviens.
De 10 à 14 ans, Michel Onfray fut enfermé à triple tour dans un pensionnat catholique très strict, tenu par des prêtres salésiens dans l'Orne. Une expérience qu'il décrit comme un lieu de souffrance. Lorsqu'il écrit « Je fus l'habitant de cette fournaise vicieuse », Michel Onfray en est ressorti durablement athée, mais athée chrétien, parce que le Dieu dont il ne veut pas entendre parler, c'est d'abord celui des chrétiens.
Oh, finalement, c'était pas tellement faux ce qu'il a dit, notre ami Ganesh.
Ah non, tout est vrai.
Ah bah voilà, quand même, hein.
Je note que le dieu des musulmans, certains de tes détracteurs te reprochent d'être parfois un peu trop tolérant.
Sur le dieu des musulmans ?
Ben oui.
Parce qu'ils n'ont pas lu un livre que j'ai écrit qui s'appelle Traité de la théologie, avec trois parties. Une
tu
partie...
as écrit trop de livres, Michel. Oui, personne oui, n'arrive
mais...
à te suivre.
Oui, oui, mais où je dis des trois monothéismes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ne sont évidemment pas mes monothéismes, puisque je suis athée, et franchement athée. Mais évidemment, athée dans un pays judéo-chrétien, ce qui fait que vous avez raison de dire que je suis un athée chrétien, mais chrétien parce que je suis de civilisation et de culture chrétienne.
Voilà. Mais... Et on a besoin d'avoir quelque chose contre lequel se dresser. Et finalement, c'est peut-être cette figure là venu de ces prêtres salésiens contre laquelle tu as envie de te dresser. Cette figure de ce dieu barbu qui est en haut,
c'est l'autorité,
le père de Jésus-Christ.
Ça ne m'a pas rendu athée ces quatre années dans un orphelinat, mais parce que je ne croyais déjà pas en Dieu depuis bien longtemps. C'est-à-dire, comme tout le monde, on nous enseigne Dieu, Jésus, Marie, Joseph, etc., mais aussi le Père Noël. Et il y a un moment donné où on cesse de croire au Père Noël sans forcément savoir quand. Et je ne sais pas quand, mais il y a un moment donné où effectivement j'ai cessé de...
Je dis stop.
Oui, mais simplement. Donc ce ne sont pas les prêtres qui m'ont rendu athée. En revanche, ils m'ont rendu un peu anarchiste, quoi. Oui, j'ai un rapport avec l'autorité qui est difficile. Je ne supporte pas.
Mélenchon.
Sagesse est un livre qui propose à tous ceux qui ne croient pas en Dieu de retrouver courage face à la mort. La technique déconcertante de facilité. Au pied du volcan qui gronde et menace d'exploser, il faut savoir vivre ici et maintenant, droit, debout, vertical. Voilà la seule tâche qui nous incombe. Moi qui incarne la République, j'y parviens parfaitement. Et si je dois demain mourir sous les coups de boutoirs de nervis macronistes, de nains maastrichtiens qui crient « Enfoncez-moi ce Mélenchon », eh bien je mourrai, debout, grâce à Michel Onfray.
Ça c'est magnifique. Quel hommage de Jean-Luc Mélenchon sur Europe 1. Alors, les chapitres de ce livre sont très sympas. Comment bien vieillir? Que faire de son temps? Comment apprivoiser la mort? Comment faut-il quitter la vie? On dirait un livre de Jean Rocasse. C'est pour remonter le moral des personnes qui ne savent pas comment aborder la mort.
C'est moi le nègre de Jean Rocasse. c'est une morale post-chrétienne. Je ne voudrais pas faire de peine à Denis, mais je crois effectivement qu'on est dans une fin de civilisation, fin de siècle.
Mais ça, il est d'accord.
Et qu'on peut, oui, je le lis dans Valeurs Actuelles et je suis souvent d'accord avec lui. Mais on peut proposer aujourd'hui une morale qui ne sera pas franchement chrétienne, parce que bon, il faut croire à Dieu, à ce qu'on appelle une transcendance, à un au-delà. Moi, je ne crois pas à Dieu, ni à une transcendance, ni à un au-delà. Et je dis, mais est-ce que ça ne serait pas une règle du jeu possible qu'on pourrait aujourd'hui mettre en scène et qui serait effectivement le retour des Romains? Les Romains avaient une morale qui n'avait pas grand-chose à voir avec
ça. Moi, ça me faisait penser à Mishima.
Mais ça peut, vous avez raison.
Cette posture comme ça, droit...
Oui, vous avez raison, parce que le christianisme n'aime pas beaucoup les morales de l'honneur, alors que les Romains avaient une morale de l'honneur et que les Japonais ont une morale de l'honneur. Et Mishima, de fait, quand il se suicide, quand il fait ce fameux seppuku, c'est justement pour attirer l'attention sur ce Japon qu'il estime décadent.
C'est Sparte aussi.
C'est pas exactement Sparte, parce que Sparte, ce ne sont que des soldats guerriers qui sont contre la culture, contre le raffinement ou l'intelligence ou la philosophie. Alors que chez les Romains, encore que les Romains, vous savez, il y a la Rome de la monarchie, il y a la Rome de la République, il y a la Rome de l'Empire, il y a la Rome du Bas-Empire. Mais la Rome républicaine, que j'aime bien, moi, effectivement, elle fait la proposition d'une morale qui m'intéresse.
Les guerriers de la culture, ça vous irait ?
Oui, parce que je pense que Bourdieu a fait un joli film qui s'appelait « La sociologie est un sport de combat ». Et je pense effectivement que la philosophie est aussi un sport de combat. Il faut mériter ce que les grands ont mérité.
Mais petit à petit, je m'excuse, je te tutoie, mais tu piques le rôle de BHL, de philosophe engagé.
Il est engagé, oui, en face, de l'autre côté de la barricade. Il est le prototype de, effectivement, ce que je n'aime pas sur le terrain de la philosophie ou de la pensée. La collusion avec le pouvoir, les puissants, l'intrigue, le mépris des petits, des sans-grades, des pauvres, la détestation des gens modestes, l'ignorance même de ce qu'est un personnage modeste. Il ignore que la province existe, que la région existe, que les paysans se suicident. Il ignore que des gens peuvent, le 15 du mois, ne plus avoir d'argent pour acheter de la nourriture à leurs enfants. Il ignore tout ça, il donne des leçons sur tout, il a une proximité très grande avec le lointain, pourvu qu'on soit, que ça se passe en Irak, que ça se passe en Libye, mais une espèce de grande détestation sur le prochain. Eh bien, prenez tout ça, inversez tout ça, et vous avez un portrait de moi-même.
Magnifique, on applaudit. Ah, une petite question, tiens, sur les fake news, puisqu'on parlait des fake news avec Ganesh, et que BHL dénonce avec beaucoup de gens aujourd'hui les fake news. Quand tu lis que 20% des gilets jaunes pensent que l'attentat de Strasbourg, c'était un complot, tu en penses quoi ?
J'en pense que ce sont les médias qui disent ça, et que c'est assez facile d'interpréter ce qui aura été dit. Ce qui aura été dit, c'est que c'est quand même bizarre que quelque chose arrive comme ça, à ce moment-là, très précisément. Donc ça n'a pas eu lieu. C'est quel type d'usage peut-on faire de ce genre d'information ? C'est ce qui a été dit. C'est pas cet attentat a été téléguidé par Macron. Ça, évidemment, c'est ce qu'on veut dire, parce qu'il faut absolument que les gilets jaunes soient des abrutis. Non, il y a eu quelque chose du genre, mais tiens, c'est quand même intéressant médiatiquement. Vous avez vu comment on peut détourner l'attention. Alors ça ne veut pas dire que l'attentat n'a pas eu lieu, ça ne veut pas dire que l'attentat a été commandité par Macron, ça ne veut rien dire de tout ça, ça voulait juste dire tiens les médias, vous êtes bien contents de pouvoir cesser de vous intéresser à nous.
Voilà, c'était la réponse et maintenant c'est au tour de Tonton Denis de nous raconter, enfin pas lui-même, c'est BFM TV oui. Bien sûr, par la voix de Ganesh qui nous raconte la vraie vie de Monsieur Tillinac.
Cancre, insolent, indiscipliné, agressif, bagarreur, odieux, insupportable à l'école et à la maison, Denis Tillinac est un enfant ingérable, collé tous les jeudis et tous les samedis et privé de dessert tous les soirs jusqu'à ses 21 ans. Viré successivement de 7 établissements scolaires, ce petit monstre caractériel fait le désespoir de ses parents, notamment de son père Roger, chirurgien dentiste et maire d'Auriac en Corrèze, qui se résout pour calmer son sacripant de fils à lui coudre la bouche avec du fil dentaire.
C'est horrible. Mais c'est je vois radical. Que tu as réussi à te libérer la langue finalement.
Mais
pourquoi tu étais aussi chiant petit ?
Je sais pas, c'est les hormones.
Non. Pas du tout. Tu as déjà répondu à la question. Tu n'aimais pas la réalité qui t'entourait.
Non, alors je suis.
Tu te barricadais.
Je me suis construit un monde imaginaire tout de suite. Je supportais pas l'école. Une heure de cours à l'école, c'était. Je sentais les secondes couler comme des grains dans un sablier.
Mais c'est vrai que ça va doucement.
Je pouvais pas le supporter, donc j'ai été viré. Alors on m'en mettait une autre, essentiellement chez les curés. À la fin, d'ailleurs, comme plus personne voyait de moi. Mes parents ont même essayé la laïque, ça n'a pas mieux marché, donc ce n'est pas la faute au curé, c'était de ma faute. Bon, je me suis réfugié dans un univers qui peut-être a fait de moi un écrivain, parce que j'étais bon à rien d'autre, à supposer que je sois bon à ça.
Un écrivain à défaut d'un adulte, dis-tu.
Oui, voilà, c'est peut-être la seule connerie que j'ai pas faite, j'aurais évité l'écueil de l'âge adulte, soigneusement.
Ganesh.
Un tel incapable ne pouvait devenir que journaliste ou serial killer. Denis Tillinac choisit la première option. Et son diplôme de l'IUP de Bordeaux en poche, Denis Tillinac fait ses premiers pas à la Dépêche du Midi de 1974 à 1979 dans l'agence de Tulle, en Corrèze. C'est là qu'il fait la connaissance d'un grand escogriffe, calamistré avec Dubaran, qui est également Premier ministre de Giscard. Jacques Chirac, qui devient son ami et son mentor, sous l'œil impavide de Bernadette, qui n'aime pas beaucoup cette fréquentation.
Bon, ça dépendait des jours. Elle pouvait être un peu cyclotimique, oui, c'était une amitié privée. C'est une amitié privée, j'avais tout un énarque pompidolien, a priori tout pour me déplaire, mais quand il arrivait, il y avait une mobilité, il y avait un charme, enfin, c'était Elvis Presley à Las Vegas, c'était formidable. Et puis une connivence, une amitié privée, jamais appartenu à un parti, une secte, un syndicat, une maçonnerie quelconque. Je lui ai donné des coups de main, on était presque toujours en désaccord, mais l'amitié privée, c'était pas un bourgeois, c'était pas un aristo, son épouse, c'était pas un prolo non plus, c'était une espèce de condottière. Dans le monde chrétien, il y a l'honneur, il y a la chevalerie au Moyen-Âge. Il y avait ça. Donc j'ai été heureux avec lui, j'ai été heureux de l'aider modestement parmi tant d'autres à devenir président de la République en 95. Bon, pour le reste, ces positions se discutent et souvent j'étais en désaccord.
Mais c'est
j'ai eu beaucoup de bonheur et je m'honore de la confiance et de l'amitié qu'il m'a accordée.
Chirac le Gaulois.
C'est Chirac le Gaulois, oui. Mais...
Est-ce que sous Chirac le Gaulois, on aurait eu les gilets jaunes ou il les aurait calmés tout de suite ?
Non, on n'aurait pas eu les gilets jaunes.
Comment
parce
il
que
juste fait ?
Il avait cette espèce d'instinct qui fait qu'il sentait le problème d'un type qui, à partir du 15 du mois, a des problèmes d'un smicard, qui a des problèmes, le fait qu'il le sentait, le PG. Je pense qu'il était très soucieux. Il disait que ce pays était est incandescent, que la Révolution française n'est peut-être pas tout à fait terminée, la révolte est toujours prête à gronder, et qu'il fallait faire attention, d'où sa méfiance vis-à-vis des réformes que lui proposaient les uns et les autres. Il disait mollo mollo, parce que, je veux dire, moi j'ai pas envie d'avoir 1 million de personnes dans la rue, se souvenez de la malheureuse affaire Oussekine, et il avait pas envie de ça. Mais je pense pas que, non, je pense qu'il aurait... Il aurait tout de suite arrêté cette histoire de surtaxe sur le diesel. Il n'aurait pas laissé les choses dégénérer comme ça.
On applaudit. Allez. Anissa. On ne peut pas faire de bilan. Là.
Non, on ne peut pas faire de bilan sur cette première partie. Ils ont été très honnêtes, ils ont rétabli la vérité tous les deux. On va leur accorder un point chacun. Il y a une égalité entre Michel Onfray et Denis Tillinac.
Oh.
Assez solennel aujourd'hui. Hein.
Oh.
De la musique romaine qui va représenter Michel Onfray tout au long de l'émission.
C'est péplomesque sa musique à Onfray.
Absolument. Dès que Michel Onfray sera en tête dans les scores, on entendra ça.
Ses trompettes.
Je préférerais qu'on soit ex aequo.
Et pour Denis Tillinac, quand vous serez en tête, ça sera ça. Pour la sortie de son livre Mai 68, l'arnaque du siècle, un peu de révolution sur Europe 1, bien sûr.
Mais les Beatles, c'était pas une arnaque.
Non, certainement pas.
Europe 1.
Et jusqu'à 17h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs Michel Onfray aujourd'hui face à Denis Tillinac. Dans un instant, restez avec nous, on va jouer avec un quiz. Tu préfères, à tout de suite. Et sur Europe 1, jusqu'à 17h, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, deux hommes de lettres qui s'affrontent dans la joie et la bonne humeur. Michel Onfray, Denis Tillinac.
Oh eh oui, la France d'en haut contre la France d'en bas. Alors maintenant, c'est le jeu favori des Gilets jaunes, que vous aimez bien tous les deux d'ailleurs. Un jeu qui se joue auprès des bras zéro sur chaque rond-point actuellement. Il est hérité des jeux d'apéro au camping. C'est le quiz des tu préfères. Alors, deux propositions... Ma foi absurde, mais vous devez choisir, car choisir, c'est renoncer. Et votre choix en dira long sur vous. Et de façon purement autocratique, je me propose de désigner celui qui aura raison.
Pour moi, ce genre de situation, c'est l'horreur.
Tu préfères...
Adopter un enfant migrant avec Éric Zemmour.
Ou aider Alexandre Benalla à déplacer son coffre-fort.
Voilà une bonne proposition.
Je veux bien devenir père de famille avec Zemmour.
Avec Zemmour. Denis, tu te vois marié avec Zemmour ?
Non, pas marié avec Zemmour. Mais m'occuper de l'enfant, pourquoi pas.
De l'enfant.
Et Zemmour fera la cuisine.
Même un enfant migrant.
Si c'est un couple, il sera la femme.
Bonne réponse pour tous les deux. Personne ne veut déplacer le coffre-fort de Benalla. Tu préfères...
Faire 457 librairies avec François Hollande pour son prochain livre.
Ou faire Paris-Moscou en trottinette derrière Sylvain Tesson.
Oui, la trottinette, moi je préfère. Oui.
Trottinette pour
ouais.
Michel.
Hollande. J'aime bien Tesson, mais je lui laisserai la trottinette et je le suivrai en voiture.
Alors je dis un point pour chacun. Ils sont durs. Tu préfères
finir à centriste, lui.
Te faire apporter le petit-déj joli par Marine Le Pen en nuisette.
Ou te faire emprisonner à vie dans tous les prochains livres de Guillaume Musso.
Ah, Marine Le Pen en nuisette.
Ah, là, je sens que tu vas dévisser, mon pauvre
oui.
Michel.
Ah, quand même.
Denis.
Oui, il est d'accord avec moi.
Marine Le Pen et peut-être même sans nuisette.
Ah, carrément.
Vous êtes deux ignobles buses. Aucun point. Tu préfères.
Faire des entraînements flashball sur Gilets jaunes vivant avec Christophe Castaner.
Ou défier Booba et Caris au kickboxing.
Moi, je veux bien défier.
Tu défies.
Oui.
Le Romain,
oui.
Tu es Spartacus en fait. Est-ce qu'on pourrait organiser un match Michel Onfray contre Booba et Caris?
Théoriquement, oui. Je suis pas sûr que j'y souscrirais.
Mais est-ce que tu penses que tu pourrais en étaler au moins un des deux?
À l'écrit, oui.
Non, mais pas sûr, mais je ne voulais pas tirer sur des Gilets jaunes, même de façon virtuelle.
Bravo.
Non, je ne veux pas non plus tirer sur des gilets jaunes, mais je n'ai pas très envie de fréquenter M. Castaner.
Bien sûr.
C'est physique, je ne le connais pas. J'ai vu des photos.
Mais donc tu préfères des films.
Vraiment, je ne le sens pas. C'est peu dire que ce n'est pas mon monde.
Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
De bobo, comme ça.
Ah oui, tu n'aimes pas sa petite barbe là, mal rasée.
Sceptique, cette espèce d'un peu de mépriser les gens qui ne pensent pas comme lui. Et pourtant, ils ne pensent pas grand-chose. Ce n'est pas mon truc. Mais comme il est ministre intérieur, je vais me retrouver au violon.
Au violon, et là, eh bien, un point pour chacun. Tu préfères
Faire une bataille de polochon avec Virginie Despentes et Brigitte Lahaie.
Ou du naturisme avec Benoît Hamon.
Ah, non. C'est tentant le naturisme avec Benoît.
Non,
je prendrais ça.
Pas du tout, la bataille de polochon.
Évidemment, parce qu'il y a Brigitte Lahaie.
Pas seulement.
Virginie Despentes.
Voilà.
Tu aimes les deux.
Les deux.
Toi aussi, tu aimes les femmes.
Oui, je suis irrémédiablement hétéro, donc ça va. Soit j'essaie de passer un moment avec ces dames sans qu'elles me bassinent avec leur féminisme, ça serait encore mieux.
Eh bien, très bien. Aucun point pour personne. Il fallait faire du naturisme avec Benoît. Question suivante, tu préfères
traîner de nuit au Bois de Boulogne avec Christine Angot et Patrick Sébastien.
Ou faire un séminaire SM à la Fistinière avec Édouard Philippe.
C'est élégant. C'est élégant.
Christine Angot.
Christine Angot au Bois de Boulogne.
Avec Patrick Sébastien.
Mais que feras-tu de Patrick Sébastien ?
Patrick Sébastien.
Tu vas l'avoir sur le dos, sur le poil.
Non, mais il y a plein de gens au Bois de Boulogne.
Ah. Vas-y, Michel, je sens que le buzz va arriver.
Non, mais enfin, chacun.
Qui as-tu croisé au Bois de Boulogne récemment ?
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est la réputation du Bois de Boulogne. Je ne suis pas parisien, moi, donc.
Ah, pourtant, on voit souvent ta petite camionnette tourner. Hein. Denis.
Non, mais je vais au Bois de Boulogne. Je me débarrasse d'Angot et avec Patrick Sébastien, on va à Jean-Boise voir un bon match de rugby.
Ah,
pas mal.
Eh bien, je propose qu'ils aient un point à chacun, bien qu'ils n'aient pas répondu pour le séminaire SM, qui, moi, me faisait marrer. Et Anissa, je me tourne vers toi pour faire le bilan.
Alors, on a cru très longtemps qu'il y allait avoir un match nul, mais non, c'est Denis Tillinac qui l'emporte. Vous lui avez accordé un point de plus à Denis Tillinac. Et jusqu'à 17h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, Michel Onfray et Denis Tillinac. Restez avec nous, on continue de jouer avec dans un instant le quiz. Il l'a dit, il l'a pas dit. Et ce sont deux hommes de lettres qui s'affrontent cet après-midi autour de Carl Zéro, deux tontons flingueurs qui portent bien leur nom. Michel Onfray face à Denis Tillinac.
Et oui, ils nous l'ont montré pendant ces deux premières parties, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, les tontons. Alors mon cher Michel, s'il y a un domaine où tu es devenu imbattable, c'est en Emmanuel Macron bashing. À longueur de pamphlets, de vidéos, en petites phrases cinglantes, de saillies vipérines, en commentaires assassins, tu l'agonies de noms d'oiseaux. Histoire de vérifier si tu conserves en mémoire toutes tes vacheries et si tu n'es pas atteint précocement de sénilité. Et si Denis Tillinac te suit dans les médias comme tu le suis, tu nous l'as dit dans Valeurs Actuelles, je vais vous soumettre un petit « on ferait l'a dit ou l'a pas dit ». C'est du quiz, donc du « l'a dit ou l'a pas dit ».
Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante ?
En effet, il l'a dit. Eh oui.
C'est OSS 117.
Onfray l'a dit ou l'a pas dit ? Macron est un pur produit d'enfant roi intolérant à la frustration.
Oui, j'ai écrit
Onfray l'a dit, il l'a pas dit ?
Oui, je l'ai dit.
Il l'a dit ? Il l'a dit ?
Oui,
on Denis. Peut.
Denis. Oui, je le prédis.
Bonne réponse pour tous les deux. Assaillir Macron avec des arguments, c'est vouloir découper le vent avec un canif. Car Macron n'existe pas.
Non, j'ai pas écrit ça.
Denis ?
Je sais pas qui l'a dit, mais il y a du vrai, il est le produit d'un moment et d'une circonstance et il n'a pas réussi à nous donner l'impression que
et la meilleure façon
qu'il existe vraiment, on l'a cru pendant 3 mois, il avait un peu resacralisé la fonction, puis après ça s'est parti dans tous les sens et on ne sait plus qui il est, peut-être n'est-il rien.
Eh bien la meilleure
ou seulement l'époux d'une dame, et peut-être qu'on s'est trompé de rôle, on aurait dû élire Madame Macron et elle aurait promené son mari autour du bassin de l'Élysée. Peut-être.
Et la meilleure façon de le dire, c'est bien de dire découper le vent avec un canif. C'est toi qui l'as dit, Denis. Il faut l'enlacer torse nu pour lui plaire et passer plus de temps en salle de sport qu'en bibliothèque. Onfray l'a dit ou pas ?
Oui, je l'ai dit, mais dans un long texte qu'il faut remettre
dans son contexte.
En situation, et c'était le commentaire du fameux doigt d'honneur antillais.
Tu sais que remettre dans son contexte, c'est pas le fort des médias.
Oui, justement. Pourquoi je le fais, moi ?
Eh bien, c'est dans cela que tu es complémentaire avec les médias. Il est du genre à nous la mettre bien profond.
Oui, mais c'est le même texte.
Hey, t'étais en forme ce jour-là.
Sur une dizaine de pages. Hein, donc.
Il y a dans la morgue des Macroniens un côté nouveau riche du savoir qui donne envie aux citoyens le plus paisible de leur botter le train arrière.
Oui, ça c'est moi, je me rappelle. Ouais.
Ah ouf, j'ai eu très très peur et là je vois que tout d'un coup...
Je pensais surtout à ces petits bobos avec le col blanc ouvert, là, les petites barbes de 3 jours. Il y en a 2 ou 3 au gouvernement qui sont particulièrement déplaisant.
Quand on laisse chanter « Salope » sur le perron de l'Elysée, on peut se faire appeler Manu. On est à peu près dans le même registre.
Oui, c'est moi.
Donc tu te souviens de tout ce que tu as dit ?
Oui, oui, oui.
Mais c'est incroyable.
Bah non, j'écris...
T'as écrit 300 000 pages, donc t'as le droit d'être légèrement gâteux.
Non, non.
On les applaudit ! Et je me tourne vers Anissa pour savoir qui, à l'issue de cette manche très difficile, va continuer en tête.
Eh bien, j'ai suivi très attentivement cette manche et c'est Michel Onfray qui mène face à Denis Tillinac.
Ah, il a rattrapé son retard. C'est important à savoir.
Restez avec nous sur Europe 1. Jusqu'à 17h, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, Denis Tillinac est face à Michel Onfray. C'est un match serré.
C'est un match culturel.
Entre intellectuels.
C'est ça qui manque à la radio.
Absolument. Et on va continuer de
c'est
jouer.
Pas les grosses têtes, ça.
Avec un quiz. C'était mieux avant. Restez avec nous. Puis il va y avoir de la musique. Dean Lewis, je sais que vous l'adorez.
Qu'est-ce
il
que c'est encore ça ?
Dans un instant, à tout de suite. Jusqu'à 17h, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, deux intellectuels, deux hommes de lettres qui s'affrontent, Michel Onfray et Denis Tillinac.
Il y a un instant, Michel Onfray est parvenu à se souvenir de toutes les saloperies qu'il avait pu dire sur Macron. Et maintenant, je me tourne vers Denis, mon cher Denis Tillinac. Alors, les gens ne le savent peut-être pas, mais sommeille en toi un bien étrange jardinier. Un jardinier qui ne cultive pas les fleurs nouvelles ni les fruits d'aujourd'hui, mais une immense nostalgie des 30 glorieuses. C'est pourquoi nous allons jouer maintenant au quiz du « C'était mieux avant ». Et voilà, il y a donc Joe Daon qui a enregistré ce tube « C'était mieux avant ». Attention, on se concentre les amis, avant, comment s'appelaient les Twix ?
Les Kit Kat.
Les Nuts.
Les Raiders.
Je sais pas ce que c'est.
Ah, tu es d'avant les Twix et d'avant les Kit Kat.
C'est des barres chocolatées vendues par deux
doigts coupe-fin.
Deux doigts coupe-fin, ouais, c'est ça.
Deux doigts coupe-fin. On voit que la fréquentation de Brigitte l'a aidé.
Non, c'est
et
pas vrai.
Et du bois de Boulogne.
Eh oui, je ne te félicite pas, mais tu as le point. Attention. Avant, qui pouvait dire à la télé, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF ou au PTT sans être menacé de censure à l'époque.
Les Inconnus,
Coluche
ou Le Luron ?
Peut-être bien Le Luron.
Michel ?
Coluche.
Coluche. Et non, Denis, c'était Coluche.
Bon.
Mais je suis désolé, c'était dans son sketch Les Flics en 75.
Parce que je vois, les gens, ils disent « Oui, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à SNCF et au PTT. »
Et voilà, il le racontait très très bien. Avant 65, quelle chose les femmes ne pouvaient-elles pas faire sans l'autorisation de leur mari ?
Elles ne pouvaient pas divorcer.
Elles ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque.
Elles ne pouvaient pas porter de pantalon.
C'est le compte en banque qui a été... qu'elles ne pouvaient pas avoir.
Bonne réponse, loi du 13 juillet 65, rendant effective la capacité juridique de la femme mariée. Avant 1960, quelle était l'espérance de vie moyenne en France, hommes et femmes confondus ?
62 ans.
65 ans.
69 ans.
69, je dirais.
Oui, moi aussi, 69.
Bonne réponse, bravo. Contre 82 ans, moyenne confondue aujourd'hui. Évidemment, il y a des exceptions, comme Jeanne Calment.
La parole.
Ah, ça faisait longtemps, ça.
Bah ouais, mais un tube pareil, il faut le remettre de temps en temps. Il faut que les auditeurs et les auditrices se souviennent. Avant les années 80, quel service obtenait-on en composant fébrilement le 033 84 00 ?
Les pages jaunes.
L'horloge parlante.
La météo nationale.
L'horloge.
L'horloge pour Michel.
La météo.
Pour dire un truc.
Pour dire un truc, parce que j'en sais rien du tout.
Et non, c'est effectivement...
Au quatrième top. Exactement
17h. Et la voix n'a pas changé, on peut toujours la consulter au 36-99.
Ah ouais, ça marche toujours.
Mais bien sûr, je l'appelle de temps en temps quand je ne sais plus quelle heure il est. Je compose le 36-99. Un point pour Michel. Quel économiste français a déclaré un pays est bloqué quand il pense que c'était mieux hier ?
Jacques Attali.
Dominique Strauss-Kahn.
Charpigny et Brancato.
Si c'est un économiste, ça ne peut pas être Attali. Je dirais Attali quand même.
Moi, je dirais Attali, Strauss-Kahn, ils pensent un peu la même chose. C'est les mêmes.
Bonnet, hein. Blanc. Non, et bah, Blanc,
j'irais,
Bonnet.
J'irais le troisième. Là.
Mais Charpigny et Brancato, les deux célèbres chanteurs des années 30. Bien sûr, on peut le voir comme ça, mais non, c'était bien Jacques Attali. Alors, c'est vrai que dans l'affiche, il est nommé économiste. On peut discuter, on le recevra bientôt, on en discutera avec lui. Et donc, le point est accordé aux deux, puisque, en gros, vous étiez Blanc, Bonnet et Bonnet, Blanc.
Ah non, j'ai dit Attali.
Oui, mais lui, il a dit un peu comme toi. Il a dit oui, mais Strauss-Kahn, c'est un peu comme Attali.
Donc, je choisis le troisième.
Donc je choisis le troisième. Pardon.
Mais c'est comme on veut.
Non, mais je suis gaga, donc le point pour Michel Onfray, avec toutes mes excuses. Et je me retourne vers la rose du désert, Anissa.
Eh bien, de toute façon, avec ce point ou pas, c'est Michel Onfray qui était en tête sur cette manche et qui mène face à Denis Tillinac.
Oh, mais c'est parce que vous êtes à côté de lui aussi. Je vous trouve très agité.
Jusqu'à 17h sur Europe 1, Michel Onfray et Denis Tillinac sont les tontons flingueurs de Carl Zéro. Ça se passe bien sûr sur Europe 1. On joue beaucoup et dans un instant, c'est un quiz spécial Juppé ou Chirac qui arrive. D'habitude, ils écrivent des livres. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer une heure aux côtés de Carl Zéro. Ce sont des tontons flingueurs de lettres aujourd'hui. Michel Onfray joue face à Denis Tillinac.
Eh oui, c'est autant de pages magnifiques de perdus pour la postérité.
Absolument.
Ils sont venus jouer avec nous. Alors, à la surprise générale, Alain Juppé a raccroché les gants. Et le meilleur d'entre nous a rejoint le Conseil constitutionnel où il va aller faire le bon dodo maintenant pendant une vingtaine d'années. Au jeu des petites phrases, des petites piques politiques, qui était le meilleur, Juppé ou Chirac? Pour le savoir, voici le quiz Juppé ou Chirac?
La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.
J'ai la pêche et avec vous, c'est la super pêche.
Oh, eh oui, il a eu la super pêche.
La pomme contre la pêche.
Incroyable. Alors, qui a dit « un chef, c'est fait pour cheffer » ?
Chirac.
Chirac, oui.
Bonne réponse des deux. Qui a dit « il y a plus de sagesse dans un dicton populaire que dans un cours d'économie politique » ?
Chirac aussi.
Et non, c'est Juppé.
Ah voilà, il a menti.
il a menti et il a essayé de copier Chirac.
Ouais.
Bien sûr que je suis de gauche, je mange de la choucroute, je bois de la bière.
Chirac,
bonne réponse des deux. Bravo les tontons. Le courage, c'est de ne pas avoir peur.
Juppé.
Oui, aussi.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? C'est du Chirac tout craché, ça. Ah, le courage.
Arrêtez-vous là.
Non, bah oui, j'en recasse. Ce sont plutôt les sentiments bas et les pulsions primaires qui occupent les feux de la rampe, hélas. Qui a dit ça?
Bon, Juppé.
Oui.
Bonne réponse. Ouais. C'est Juppé. Eh oui. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir.
C'est Chirac, mais en plaisantant.
Chirac.
C'est Chirac, mais pas en plaisantant.
Ah oui,
J'apprécie plus le pain, le pâté, le saucisson que les limitations de vitesse.
Ah, ça peut pas être Juppé, ça.
C'est clair.
Oui, c'est Chirac.
C'est Jacques Chirac. Bravo les garçons. En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir.
C'est Juppé rentrant du Canada.
Juppé rentrant du Canada où il était parti pour échapper.
À la justice.
À la justice, un terrible destin. C'est curieux finalement ce garçon qui était le meilleur d'entre nous, enfin pour Chirac. Finalement il n'y allait vraiment jamais au bout. Pourquoi?
Je sais pas, ça sera ma chronique de cette semaine, c'est toujours été un mystère pour moi.
Le mystère
bien,
Juppé.
Je connais bien, j'arrive pas à comprendre. D'ailleurs je comprends même pas pourquoi elle a renoncé, peut-être pas à ses mandats, bon il a l'âge, mais à la vie publique. Sous prétexte que les gilets jaunes sont violents, qu'on est irrespectueux avec les élites. C'est quand ça va mal dans un pays qu'on a besoin de vigies un peu expérimentées.
Michel,
j'ai pas compris pourquoi il s'en va.
T'en penses quoi de Juppé?
Bah, que c'est un bon second. Oui. Et que ça fait un bon Premier ministre, mais que l'étoffe du héros est nécessaire pour le président de la République. Et que, un peu comme des gens comme Philippe Séguin, qui avait pas mal de talent aussi, ne pouvait pas s'imaginer dans la peau du chef de l'État. Il y a une espèce d'inhibition qui a fait qu'ils n'y sont pas allés.
Un militaire, c'est comme un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s'en va.
C'est Chevènement, ça.
Non, en fait, c'est Juppé qui l'a dit, ça.
Oui.
Mais après Chevènement.
Oui.
Chevènement a dit à un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
Voilà.
Oui. Et donc, Juppé a calqué le truc en disant un militaire. Eh bien, Anissa, maintenant, il est temps de me dire qui est en tête.
Eh bien, sur ce quiz Chirac-Juppé, c'est une égalité entre Michel Onfray et Denis Tillinac.
Il va falloir cette dernière partie pour les départager.
Eh ouais, il y aura du suspense jusqu'au bout.
Mais c'est la plus dure de toutes.
C'est la plus dure de toutes.
C'est le supra-banco.
Et le supra-banco, effectivement, qui arrive dans un instant, la dernière partie d'émission. C'est en musique, comme d'habitude, c'est une tradition maintenant, et on va jouer avec les tubes politiques. Et puis on va s'écouter de la musique, de la vraie cette fois-ci. Vanille arrive sur Europe 1, le titre c'est Suivre le soleil. Et Vanille, Karl, puisque vous me le demandez, et
ben
c'est Vanille. La fille de Julien Clerc, à tout de
non.
suite.
Elle invente n'importe quoi.
Jusqu'à 17h sur Europe 1, les tontons flingueurs de Karl Zéro sont Michel Onfray aujourd'hui et Denis Tillinac. Oh,
nous allons maintenant vous faire jouer avec des extraits de discours, admirablement mis en musique. Car, comme l'a dit Michel, il faut penser la musique comme ce qu'elle est essentiellement un bruit volontaire, un son voulu, désiré, construit, architecturé, à intercaler dans le grand concert silencieux du monde, non pour en perturber l'harmonie, mais pour obtenir cette harmonie matière à variation. Tu pourrais pas dire les trucs normalement. Bref, à vous de dire qui parle, c'est le quiz du tube politique.
Je dis ma gratitude aux Françaises et aux Français. Je dis ma confiance aux Françaises et aux Français.
On écoute.
Je viens de loin, je viens de loin, je viens de loin, et on ne m'intimidera pas. La politique, c'est un long chemin. La politique,
Fillon,
c'est un long chemin. Dès le début,
bonne réponse.
Oui, Fillon, bien sûr, Julien.
J'ai construit mon parcours avec elle. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte. Nous n'avons qu'un seul compte. Crédit agricole de
Sablé-sur-Sarthe. C'est génial.
C'est quand même mieux que les vrais discours.
Mais bien sûr.
Quand c'est en musique.
Madame Le Pen et ses amis
Valtz
se seront réfugiés au château de Montretout. Mais
ce
sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qu'on a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Mais je veux autre chose.
C'est
avec
l'air.
Vous
c'est
pour
Macron.
Mon pays. Mais pas ça. Pas ça. Pas ça.
Si j'avais des cheveux, je les secourais en rythme. C'est du heavy metal. C'est pas ça d'Emmanuel Macron. Tu l'as pas dans ta discothèque, Denis ?
Non.
Quel dommage, on va te faire porter le CD. Attention, bah là, vous allez comprendre tout de suite parce qu'il le dit lui-même.
Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée. Ouais. J'ai également voulu que notre modèle social puisse être conforté. J'ai décidé de ne pas être candidat. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle.
Un tube de l'été. Ça fait un peu tube.
Ça fait numéro 1. Au top 50. Et pour conclure, celui-ci, très joli, avec un vieux mot d'autrefois comme les aime Denis.
Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant, à 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad.
Donc, à votre avis, les rouges franchis.
Des carabistouilles.
Il s'agit de
Macron.
C'est Macron, dans son tube éternel Carabistouille.
Nous avons la preuve.
Mais vous fumez, monsieur.
Et pour conclure, en restant sur une note musicale, je vais vous proposer à tous les deux de slammer un poème de l'autre. C'est donc un texte sur de la musique. Je vous fournis le texte. Il s'agit pour Denis d'un texte de Michel Onfray et pour Michel d'un texte de Denis Tillinac. Dans les deux cas, il s'agit d'un poème et vous allez faire un sort au poème de votre collègue tonton puisque je vous fournis également une super musique. Qui veut commencer ?
Vas-y.
Oui.
On te met la musique, comme ça tu es déjà un peu dans l'ambiance.
Faire grand corps malade.
Voilà.
Je suis prince d'ailleurs, seigneur du temps jeté. Non, le texte est beau. Je suis prince d'ailleurs, seigneur du temps jadis. Mon sceptre est un bâton taillé à l'opinel. La reine, une souillon. Glané dans un hôtel, en face d'une gare, mes soldats sont du plomb dont se coulent les songes des ados buissonniers. Monarque sans sujet dans un palais fantôme, chevalier d'ombre sur un lit de genêt par un égo cinglé, je règne sur les ombres d'un moi disséminé.
Extraordinaire slam de Michel Onfray sur un texte de Denis Tillinac. Tu as vu, le niveau est très très haut, Denis. Tu vas nous donner lecture maintenant sur une magnifique musique d'un poème de Michel. Attention, c'est parti.
J'ai vu des envieux en nombre, cuits dans le fiel du ressentiment, des jaloux en quantité, des carcasses tordues par l'antipathie, carbonisées par les feux de l'amertume. Trop peu désireux de s'attarder sur leur vie ratée. Ils s'évertuent à salir la vie réussie du voisin, incapables de regarder leur médiocrité. Ils veulent la petitesse pour tous, ainsi ils se croient grands. La bête tue pour manger, repue, elle ne tue plus. Les hommes ne sont jamais repus, ils tuent sans relâche. Ils inventent des machines à tuer, ils raffinent. Le chien vaut mieux que l'homme. Diogène avait raison.
Il s'agissait de deux poèmes là qui ont été mélangés par un demi-fou, moi en l'occurrence. Et pourquoi d'ailleurs vous avez fait tous les deux des poésies et personne ne parle jamais plus de poèmes ?
Parce que moi, on m'invite pour faire la polémique et que j'ai fait une douzaine de recueils de poésie, on n'en parle jamais. J'ai fait une quinzaine de textes sur des artistes, sur des peintres pour en dire du bien et qu'on ne m'invite jamais avec ces textes-là, mais que comme les médias veulent de la polémique, ils m'invitent pour de la polémique. Quand il n'y a pas de polémique, ils en créent. Et comme la poésie n'est pas un art de la polémique, mais plutôt un art du consensus, ça rassemble et ça réunit, eh bien, ça n'est pas un bel objet médiatique.
Oui, je dirais la même chose. J'ajouterais quand même que les poètes contemporains qui ont renoncé à la musique, aux sentiments, à la rime, sont responsables du fait qu'on lit plus de poésie. Jusqu'aux années 20, dans les campagnes, les paysans lisaient du Victor Hugo ou du Peggy ou du Lamartine ou du Vigny. Parce que ça voulait dire quelque chose. Maintenant, ça n'intéresse plus personne. C'est trop intellectuel, trop cérébral, trop peu sensible, la poésie contemporaine. Ça n'intéresse plus personne.
Quel
c'est
désastre, mes amis.
Aussi, il y a que celui-là comme désastre. Là, il faudrait une journée.
Pour te répondre, Michel, on pourrait faire éventuellement des poèmes polémiques.
Oui, ça peut exister aussi.
Ça a existé.
Oui, mais pourquoi toujours la polémique ? Oui. Il y a de la peinture, il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a des artistes,
il y a des créateurs,
il y a des arts, il y a des poètes. Et il n'y a pas d'émission qui soit spécifiquement consacrée à réconcilier les gens autour de textes positifs.
Je suis assez d'accord. Moi, j'écris des livres dont la plupart n'ont aucune espèce de dimension polémique, politique. Et puis, quand on me convie, c'est parce que je suis proche de Chirac. Il n'y a que ça qui intéresse les...
Non, parce que là, tu détruis les statues de mai 68. Tu fais beaucoup de mal à ma génération.
Oui, bon, ça, c'est un texte un peu plus polémique. Mais j'ai publié 60 ou 70 livres. Et de temps en temps, j'interviens dans le débat public sous forme de livres. J'essayais de décrypter, justement, sans trop polémiquer. Mais ça n'intéresse pas grand monde. Pour intéresser, il faut choquer, scandaliser... Et si on peut y ajouter un peu de vulgarité, on y gagne.
Voilà, hélas. Et effectivement, c'est une recette dont je saurais me souvenir. Elle est formidable. Et je propose qu'on les applaudisse à tout rompre. Ils ont été les tontons flingueurs de la journée. Et Anissa, le bilan définitif, là, comment les départager ? Ils étaient excellents tous les deux.
Alors, ils ont été excellents tous les deux. Leur texte était très bon tous les deux. Mais il y a quand même eu un quiz sur les tubes politiques. Et là-dessus, c'est Michel Onfray qui finit en tête et qui a le plus reconnu de tubes.
C'est donc le Romain qui repart avec les lauriers. C'est
et
normal,
la France d'en bas qui l'emporte.
Ah là, tu es content.
Non, parce que, vous savez, il y a eu, je ne sais plus quand, moi je ne suis pas très sportif, mais Denis Lé, je pense, il y a eu un moment donné aux Jeux Olympiques où des gens ont fait toute la course ensemble, mais c'était une course de fond, et ils étaient séparés par quelques mètres, et ils se sont attendus l'un l'autre, et ils ont franchi la ligne d'arrivée ensemble. Moi, j'aimerais qu'on franchisse la ligne d'arrivée tous les deux ensemble.
Alors justement, j'ai Maître Jaunâtre, l'huissier d'Europe 1 en ligne, il me parle dans l'oreillette, et il me confirme que vous pouvez partager ce prix et réconcilier du même coup les deux France, Denis.
D'autant que je me sens plus solidaire quand même de la France d'en bas.
Donc un triomphe de deux France d'en bas exceptionnellement. Les règles changent au fur et à mesure, ça n'est pas très grave. Anissa.
Demain, Carl, on se retrouve à 16h sur Europe 1.
Mais avec très grand plaisir, avec qui ?
Avec un match très étonnant. François face à Alexandre Desplat, qui est nommé plusieurs fois demain au César et aux Oscars à Los Angeles.
Et l'autre, il fait toujours Wiz ?
Il fait toujours Wiz, il est en très grande forme.
Formidable !
Europe 1.